BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur BFM Business. C'est l'heure de votre émission RH. Bienvenue dans Happy Boulot. On vous accompagne pendant une demi-heure. Securitas fait un pari. Dans l'objectif d'améliorer l'onboarding, l'entreprise supprime la période d'essai à l'embauche de ses nouveaux salariés. Est-ce que c'est vraiment efficace? On va poser la question à notre invité, le DRH de la semaine, Geoffrey Fournier, DRH de la boîte. Dans 10 minutes, c'est la séquence service de notre émission. On interroge notre expert avocat en droit du travail sur une question d'auditeur avec vous, Camille Bourg. Bonjour.
Bonjour, Erwan. Une question aujourd'hui. Je suis commercial et dois plusieurs fois par mois faire des trajets importants en début de journée pour me rendre chez mon premier client. Mon employeur me dit que ce temps n'est pas du temps de travail, ne doit donc pas être rémunéré. A-t-il raison? Pour lui répondre, l'avocat Thierry Meillat, associé au cabinet Hogan Loveuse. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail à l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr.
Avoir le courage managérial d'aborder des questions importantes ou difficiles en entreprise sur plein de sujets. L'organisation du travail, des comportements ou sur l'avenir de la société. Ne pas fuir ses responsabilités, avoir la bonne méthode pour que ces conversations courageuses produisent des effets gagnant-gagnant. Ce sera le sujet de notre meeting avec nos deux invités. Et puis en fin d'émission dans le labo, notre invité emmène les patrons se ressourcer dans la nature pour retrouver de la hauteur de vue. Voilà le programme, on espère que ça vous plaît. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
Bonjour Geoffrey Fournier.
Bonjour.
Merci d'être notre invité, notre DRH de la semaine dans Happy Boulot. Vous êtes le DRH de Securitas Technologies, numéro 1 de la sécurité électronique professionnelle en France, qui embauche 2000 personnes en France, 13 000 dans le monde. Vous recrutez d'abord ?
Oui, tout à fait. Un plan de recrutement est en cours de 120 personnes pour le périmètre France. Donc, les populations concernées sont vraiment des populations techniques pour deux tiers des postes. Un tiers sur le support, ça peut aller vraiment de fonctions RH vers des fonctions finance. Vraiment, c'est très varié. Enfin, on recrute également beaucoup d'alternants. Donc, vraiment, les plus jeunes générations, si vous souhaitez intégrer donc, l'entreprise numéro un du secteur, n'hésitez pas. Ouais.
Pour donner vraiment une idée concrète, justement, aux potentiels candidats sur des contrats d'alternance, c'est pour faire quoi ?
Encore une fois, c'est très varié à la fois des fonctions de chef de projet, d'alternant technique, mais également d'accompagnement RH. Preuve en est, nous avons des postes ouverts donc, dans le domaine des relations sociales. Mmh. Donc, c'est vraiment très diversifié. N'hésitez pas à aller sur notre site carrière.
Vous avez tout.
Vraiment,
on retrouve tout.
Quasiment.
Sur le site. Un secteur porteur, donc, il n'y a pas de crise dans votre industrie.
Oui, un secteur très porteur. La sécurité électronique, donc, du fait de l'actualité, mais également du fait des JO, etc. Ah oui. C'est vraiment un secteur porteur. Très intéressant, à la fois très challengeant, mais également une vraie possibilité de se développer au sein d'une entreprise qui permet vraiment les progressions individuelles.
Et alors, Geoffrey Fournier, l'innovation, on va dire, que vous développez chez Securitas Technologies, d'un point de vue RH, vous avez décidé tout bonnement de supprimer la période d'essai à l'embauche.
Tout à fait.
C'est un sacré pari.
Tout à fait. Pour le coup, il faut rendre à César ce qui est à César. En France, on n'est pas les premiers à le faire. En revanche, on est les premiers à le faire dans le domaine de la sécurité.
Oui.
Donc la suppression des périodes d'essai concerne les techniciens. J'insiste bien sur ce point-là. On a environ 550 techniciens en France au sein de Securitas Technologies. Pourquoi avoir fait ce choix?
Oui, pourquoi?
Tout simplement, on s'est rendu compte que la transition professionnelle était devenue de plus en plus anxiogène et on voulait vraiment se démarquer de nos compétiteurs en accompagnant de manière bienveillante nos futurs collaborateurs. La marque employeur, c'est deux choses, l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. On s'est dit qu'on allait dans un premier temps agir sur l'expérience candidat, et le fait de supprimer la période d'essai pour des techniciens qui est un profil pénurique en France, ça va clairement dans notre sens et dans le sens du candidat. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant.
C'est un argument d'attractivité ?
Oui, c'est vraiment très différenciant. Encore une fois, on est les premiers dans le domaine de la sécurité électronique à le faire, et ça nous permet vraiment d'être plus attractifs et de se distinguer de la concurrence.
Bon, mais supprimer donc cette période d'essai à l'embauche, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue RH ?
En interne, ça force à beaucoup d'exigences. Beaucoup d'exigences en interne.
On ne peut pas se planter sur le recrutement, là, parce que ça va être compliqué non, de se séparer d'un collaborateur qui ne convient pas.
Ce n'est pas forcément très compliqué, dans le sens où, malgré tout, en début de collaboration, il y a d'autres voies possibles, d'autres méthodes possibles. Cependant, ce n'est c'est pas l'idée. Encore une fois, c'est vraiment un encadrement bienveillant et c'est une vraie, un vrai positionnement d'entreprise en faveur de ses collaborateurs. Ouais. Et donc, concrètement, comment cela se passe? Ça nécessite vraiment, de la part des recruteurs et des managers, une vraie prise de position, un vrai courage managérial et d'être fort sur les fondamentaux, à savoir les process RH.
Donc, il faut aussi très, très bien connaître le candidat, hein, parce que on veut justement ne pas faire d'erreur, même si, voilà, vous nous l'expliquez, on peut quand même trouver des façons de mettre fin au contrat si ça se passe pas bien dès les premières semaines ou les premiers mois. Malgré tout, il faut limiter le droit à l'erreur pour que ce ne soit pas un échec.
Absolument. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers la réussite et d'aller vers le succès, à la fois pour les collaborateurs et pour l'entreprise. On s'appuie encore une fois sur des processus de recrutement qui sont éprouvés, de recrutement, 15 jours maximum, et une proposition de contrat de travail à la fin de cette deuxième semaine. Donc, c'est vraiment des process rapides qui forcent à des prises de décision franches du manager et franches des recruteurs. Donc, pour moi, en fait, c'est à la fois un challenge en interne et une possibilité de communication en externe. Donc, pour nous, cette mesure-là, elle a cette double notion.
Depuis combien de temps vous faites ça ?
Ça fait quelques mois, 2 mois.
Ah oui, quelques mois. Qu'est-ce que ça apporte au candidat ? C'est ce que vous disiez, c'est le côté rassurant ?
Oui, encore une fois, une transition professionnelle, c'est un moment très anxiogène. Voilà, on a tous une vie familiale. Le fait d'avoir un emploi salarié, donc on échange son temps contre de l'argent, c'est donc une sécurité, une sécurité financière.
Et souvent, quand on quitte un CDI pour un autre poste, c'est vrai qu'on peut être un petit peu anxieux de cette transition.
Exactement, et c'est justement pour réduire cette anxiété qu'on a choisi d'agir dans ce sens.
Vous donnez combien de temps pour mesurer l'efficacité ?
Je pense qu'à la fin de l'année, dans 6 mois, on aura une vision claire. Pour le coup, dans d'autres secteurs d'activité, ça a vraiment débouché sur une baisse du taux de turnover. Donc, sachant que le turnover en France est aux alentours des 15%, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un turnover nettement plus bas.
Vous parliez des Jeux Olympiques, là. Comment vous allez travailler et agir pendant cette période, vous, en particulier chez Securitas Technology ?
Alors, on a mis en place un certain nombre de choses, à la fois pour les populations opérationnelles et les populations sédentaires. Les populations sédentaires, en fait, on s'orientera vraiment sur une prise de congé et du télétravail de manière massive, notamment pour les sièges parisiens. Et en ce qui concerne la partie itinérante opérationnelle, c'est vraiment au cas par cas. On a ciblé 3 zones, une zone Île-de-France, une zone grande ville de province, site olympique, et une zone, on va dire, hors site de province et hors Île-de-France. Et donc, en fait, pour cette troisième zone, il n'y a pas de changement. Pour les grandes villes olympiques, concrètement, il y a une politique de télétravail bienveillante et des aménagements du temps de travail. Et pour l'Île-de-France, on est vraiment plus sur du télétravail et des congés payés.
Il nous reste une minute, Geoffrey Fournier, pour mieux savoir quel manager vous êtes. Et c'est Théo qui nous amène tout de suite la boîte du DRH, dans laquelle, comme traditionnellement, il y a plusieurs petits papiers. Je vous invite à en piocher un. Vous l'avez bien choisi. Je vous laisse nous le lire, c'est une phrase à compléter.
Dans ma boîte, je cherche des candidats qui...
Ah oui, justement, alors.
...qui sont engagés. La notion d'engagement au sein de Securitas Technology est majeure. Encore une fois, on est une entreprise de sécurité. On fait partie d'un consortium de sécurité au niveau national au profit d'acteurs institutionnels et des grands acteurs privés de défense et de sécurité. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on se positionne sur un engagement extrême, à la fois de nos collaborateurs, mais également du positionnement de l'entreprise dans un cadre bienveillant. J'insiste bien.
Comment on décèle ça, justement, pendant un entretien d'embauche ?
Vis-à-vis des hobbies. Moi, par exemple, moi, j'accueille de manière particulièrement bienveillante les anciens institutionnels, étant moi-même un ancien institutionnel, et également l'engagement associatif. Voilà, c'est ce genre de petits engagements.
La petite case centre d'intérêt sur le CV, elle est importante chez vous.
Absolument, ouais. En tout cas pour moi.
La lisez. Voilà. C'est bon à savoir, parce que c'est pas toujours le cas en fonction des boîtes. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Geoffrey Fournier, DRH de Securitas Technology. Tout de suite, on appelle notre avocat.
Et on joue tout de suite l'avocat Thierry Meillat, associé au cabinet Hogan Lovers, pour répondre à cette question. Je suis commercial et dois plusieurs fois par mois faire des trajets importants en début de journée pour me rendre chez mon premier client. Mon employeur me dit que ce temps n'est pas du temps de travail et ne doit donc pas être rémunéré. A-t-il raison ? Écoutez.
Il a partiellement raison. C'est vrai que dans le Code du travail, il est indiqué en résumé que le temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif et donc n'est pas rémunéré en principe. Et ça vaut surtout pour le premier et le dernier trajet d'un commercial quand il se rend vers le premier client. Mais la Cour de cassation est venue apporter en fait une grande nuance en disant que si le salarié travaille effectivement pendant ce temps, et notamment s'il a un quitte-main libre, ce qui était le cas dans l'affaire qui a été jugée par la Cour de cassation, alors là, ça devient du temps de travail et ça doit être rémunéré par l'employeur.
Merci Thierry Meillat. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail, adresse happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Alors voilà un sujet ô combien important, il faut nous écouter si vous êtes manager, mais si vous êtes salarié aussi, les conversations courageuses, comment avoir des conversations courageuses en entreprise, parce que c'est très important. C'est ce que vous détaillez dans un manuel que vous avez édité, Paul Boffa-Combi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur notre plateau, vous êtes coach de dirigeants. Peut-être première question avant de continuer, mais qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ?
Alors c'est un constat qu'il y a des transformations de plus en plus profondes, de plus en plus rapides, et que les équipes qui font la différence sont les équipes qui arrivent à poser les sujets sur la table et à construire ensemble des réponses à ces sujets, des réponses innovantes. Et donc plus les dirigeants sont capables effectivement d'aborder des sujets courageux, plus ils vont aller vite et plus leurs entreprises vont se porter bien.
On va rentrer dans les détails. Ce livre, donc, c'est le petit manuel de conversation courageuse chez Rethink and Lead Edition. Et nous sommes aussi, il mène des conversations courageuses dans son entreprise sur le climat avec donc Antoine Poincaré. Bonjour Antoine.
Bonjour Erwan.
Vous êtes responsable de la Climate School d'AXA qui forme à la transition. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus d'abord ?
Ouais, en deux mots, on essaye de former les collaborateurs des autres entreprises, alors de AXA aussi, mais oui, plutôt des boîtes et des grandes boîtes sur ces sujets environnementaux pour qu'ils comprennent de quoi ils parlent, c'est-à-dire à la fois de quoi on parle quand on parle de climat, de biodiversité, de ressources naturelles, mais aussi comment ça va venir toucher leur métier, les décisions qu'il va falloir prendre différemment quand on est DRH, patron des achats ou patron du marketing.
Ouais, très bien. On va rentrer dans du concret. Mais d'abord, je voyais Paul Boffa-Combi, c'est le patron de Systému, Dominique Schelcher, qui a réagi sur votre livre, hein, sur LinkedIn il y a quelques temps. Je vous lis le commentaire qu'il a publié. Il dit à propos de votre livre, le courage est sans doute une des valeurs les plus nécessaires dans l'entreprise aujourd'hui. Voilà un livre qui donne des clés pour mener des conversations courageuses. À ses yeux, donc il parle de vous, les dirigeants et les équipes performantes partagent deux caractéristiques, la capacité à déceler les sujets ou tensions à poser sur la table et l'aptitude à tenir des conversations courageuses pour les régler sans attendre. Ces conversations sont menées dans un esprit collectif et solution plutôt que égo et problème. L'environnement actuel n'y encourage pas avec le télétravail par exemple. Pourtant, ces temps d'échange véritables sont essentiels. On voit que c'est, bon, là, a priori, un manager qui est plutôt en phase avec vous, hein, avec ce que vous décrivez dans ce livre.
Oui, alors après, je pense qu'on est dans un contexte où on a besoin d'aller vite et à la fois d'aller profondément et aller bien. Et donc, du coup, j'ai voulu, en fait, écrire ce livre parce que, pour moi, le courage, c'est pas seulement le courage de dire. C'est assez facile de dire tout ce qu'on nous passe par la tête.
Entendre
là
aussi. Le courage d'entendre.
Oui. Mais là, c'est le courage de dire, mais dans l'intention, en fait, de construire. Ce qui, par les temps qui courent, est essentiel également. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de donner des clés concrètes aux dirigeants, d'ailleurs, comme aux collaborateurs, pour créer de la confiance, créer des espaces où on peut effectivement partager et des espaces où on peut construire ensemble.
Et dire, ça s'apprend. Parce que parfois, on a peur de dire les choses, justement, d'avoir ce courage. Parce qu'on a peur de quoi ? De la réaction de notre interlocuteur ? On a peur de froisser, de blesser ?
Oui, je pense qu'on est dans une culture où on aime bien avoir des certitudes. Vous avez parlé tout à l'heure de la culture de l'apprentissage et de l'échec avec le DRH précédent. Je pense qu'effectivement, on a besoin de savoir qu'on peut tous apprendre en marchant. Et on est dans un contexte aujourd'hui où le climat, l'IA, les nouvelles organisations du travail, les crises nous percutent. Et donc, effectivement, on peut avoir peur de l'émotion potentielle qui va émerger quand des discussions vont aborder des sujets sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Et moi, j'aime à dire, ça fait 20 ans que j'accompagne des dirigeants et des équipes, j'aime à dire que l'émotion, ça veut dire en mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me touche, donc ça me donne une information, et si j'écoute cette information, je vais avoir une partie de la solution, et je vais avoir une partie de l'échange qui va se passer ensuite.
Antoine Poincaré, vous êtes responsable de la Climate School d'AXA, justement sur les questions climatiques. Il faut encore aujourd'hui avoir du courage pour les aborder.
C'est en ce moment qu'il faut avoir du courage, parce qu'en fait il y a deux dimensions qui rendent la conversation climat compliquée. La première, c'est le climat d'aujourd'hui qui est en train de se dérégler. Donc c'est une discussion face aux risques physiques auxquels on fait face quand on est DRH et que demain on aura des vagues de chaleur et des collaborateurs qui sont exposés. Donc c'est des conversations dures parce qu'elles sont sur des moments critiques, je dirais. Et puis l'autre, ça rebondit sur votre point sur la différence entre le courage de dire et le courage de faire et de construire, c'est que depuis quelques années, le courage de dire sur le climat, il était assez assez facile puisqu'on disait bah horizon 2050 on sera neutre en carbone et tout ira bien. Et depuis quelques années on a pris les décisions faciles, celles qui étaient à la fois bonnes pour le climat et bonnes pour l'économie de la boîte. On a fait quelques économies d'énergie, on a serré quelques boulons, ça s'est un peu fait. Mais là on rentre dans le dur de la conversation qui consiste à dire OK, je lancerai bien cette nouvelle offre, ce nouveau produit, mais ça va rentrer en contradiction de manière massive avec mon modèle d'affaires. Ben oui. Il y a des boîtes qui n'ont pas le courage de le faire. Une boîte comme Microsoft, elle a dit il y a 3 ans, tout va bien, on va être neutre en carbone en 2030. Elle avait une trajectoire très agressive. Entre-temps, OpenAI est arrivé. Ses consommations à la fois de carbone et d'eau ont explosé. Et elle dit un peu, bah tant pis. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu, à ce moment-là, en tout cas, elle a arbitré en faveur de l'économie court terme, très clairement, au détriment de ses objectifs carbone. Et donc, les entreprises dans lesquelles, et ça, c'est quand même souvent des discussions de COMEX, hein, il va falloir arbitrer dans le dur et dire, OK, ça, on le fait pas, et ben, c'est à la fois un courage de dire et de renoncer d'un côté, et en même temps de construire sa boîte de demain plus résiliente, plus prête au changement.
Paul Bofacombi, vous envoyez, vous, des dirigeants qui sont face à ces dilemmes, face à ces questions, notamment sur le point de l'environnement?
Tous les jours. En fait, on est dans des contraintes qui sont multiples, donc il faut arbitrer en permanence et faire des trade-offs, comme on dit en bon français.
Alors, comment on les accompagne?
Et donc, comment on les accompagne? Moi, j'ai l'habitude de leur dire, vous êtes plusieurs dans votre COMEX, et plus vous allez vous appuyer sur les différences de point de vue, et plus vous allez vous appuyer sur les compétences de chacun et la capacité de chacun de poser un diagnostic commun, et plus, en fait, vous allez être riche de toutes ces différences, et vous allez avoir toutes les pièces du puzzle qui vont vous donner la vision complète. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est très complexe. Le monde est incertain, il est complexe. On bouge dans beaucoup de dimensions. Et comment arbitrer entre le climat, l'IA, les nouvelles organisations, le télétravail, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc du coup, en fait, c'est en permettant aux gens de s'exprimer et en permettant aux gens de dialoguer. Parce qu'en fait, ça va au-delà, vous avez dit tout à l'heure, dire et écouter.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'en fait, dans les COMEX avec lesquels on travaille sur les deux dimensions. La capacité de dire, ma capacité d'écouter. C'est-à-dire que si je n'écoute pas ce qu'Antoine est en train de dire tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir construire avec lui, je vais être déjà dans la réponse que j'aurais si Antoine n'était pas en face de moi. Donc là, l'idée, c'est de créer les conditions de la confiance qui font qu'on va s'enrichir de l'autre, de ce qu'il dit, et on va construire à partir de ce qu'il dit en acceptant de se décaler parfois un peu de notre point de vue, sachant que ça n'enlève en rien la capacité du dirigeant à décider. In fine, il est responsable, c'est lui qui prend les décisions, il est responsable.
Antoine Poincaré.
Lié à ça, je crois que quelque chose doit revenir un peu à la mode, je dirais, dans ces COMEX, c'est la notion d'engagement, mais engagement au sens de promesse. Parce que ces grandes décisions, notamment environnementales, pour des raisons sociales, on ne peut pas les prendre du jour au lendemain. On ne peut pas débrancher en disant « j'arrête ça demain », c'est trop compliqué. Oui. Par contre, on peut dire « dans 5 ans, je m'engage à ce que ». Et le problème, c'est que dans un monde où on a vachement valorisé l'agilité, l'adaptation à un monde qui changeait, on a un peu le sentiment que tous les ans, on va pouvoir rebattre les cartes. Alors que là, il y a un moment où il va falloir que, à la fois, les dirigeants soient capables de prendre ces promesses, ces engagements, et puis qu'ils soient crédibles. C'est-à-dire qu'on ait un track record historique de dire « ah ouais, on avait dit qu'on arrêtait telle ligne de service parce qu'elle était trop polluante, on l'avait dit il y a 5 ans, ça fait 5 ans, prêt. Et donc, je pense qu'il y a le retour à une certaine constance, si on parle de courage dans ces sujets-là, à l'opposé d'un mouvement qui allait plutôt dans l'autre sens ces dernières années.
Les conversations courageuses, Paul Bofacombi, elles peuvent aussi aller dans l'autre sens de celui auquel on pense spontanément, le manager, le dirigeant qui va s'adresser à ses équipes. Ça peut aussi être le cas inverse, des équipes qui vont avoir le courage de s'adresser à leur manager en leur demandant un cap, en leur demandant... des éclaircissements.
Ou en leur donnant leur avis. Voilà. Effectivement, c'est tout l'esprit en fait de ce livre, c'est de partager les 20 ans d'expérience que j'ai aux côtés d'équipes, d'organisations, de dirigeants, et de dire en fait à chaque fois qu'un dirigeant a véritablement laissé la place au dialogue, ça ne veut pas dire qu'il est toujours d'accord. Entendre ne veut pas dire je prends le point de vue de tout le monde, parce que
non, parce comme
on
vous le disiez,
dans tous les sens.
C'est lui qui prend la décision au bout du compte.
Alors, on peut la prendre collectivement, mais de toute façon, il est toujours responsable. C'est lui, in fine, qui va être devant ses actionnaires ou devant le reste de l'entreprise responsable. Mais à partir du moment où, en fait, je laisse chacun s'exprimer et je laisse l'espace, effectivement, je donne au collaborateur la capacité de prendre une initiative, de donner un point de vue. Et à partir de là, ça veut dire qu'il prend part à la décision. Et quand vous donnez voix au chapitre, ça veut dire que le collaborateur sait aussi pourquoi la décision. décision a été prise, et que plus il sait pourquoi la décision a été prise, plus il va être engagé dans la mise en œuvre, et plus ça va aller vite au final. Donc on dit souvent, en fait, avoir ces conversations au début et faire partager, faire partager tout le monde, ça prend du temps, mais finalement ça accélère.
Pour conclure, parce qu'on arrive au bout déjà, mais le courage de ces conversations, c'est quelque chose qui s'apprend aussi quand on parle du climat.
Je pense qu'on se fait le cuir, ouais, parce que les conditions sont changeantes, les promesses d'hier sont et les engagements d'hier sont à revoir à l'aune de ça. Donc oui, je pense qu'un dirigeant qui depuis 4-5 ans se confronte à ce sujet-là est déjà un peu plus à le cuir, un peu plus épais qu'à l'époque.
C'est un travail de long terme.
C'est comme un muscle, en fait. Plus vous l'entraînez, plus en fait il est capable d'exercer son plein pouvoir.
Et plus c'est bénéfique pour l'entreprise, parce que c'est quand même ça aussi que va chercher le dirigeant.
Tout à fait.
D'avoir des résultats. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Paul Boffa-Combi, autrice donc du petit manuel de conversation courageuse, et Antoine Poincaré, responsable de la Climate School d'AXA. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche. Avec Yannick Mercieris et son quiz sur les inégalités hommes-femmes.
Aurez-vous la bonne réponse à ces trois questions? Première question, en quelle année atteindra-t-on la parité salariale entre les femmes et les hommes dans le monde? 2054, 2154 ou 3054? La bonne réponse, c'est 2154, c'est-à-dire dans 130 ans. Si on regarde la France, la parité sera atteinte un petit peu plus tôt, et encore, c'est en 2082. Ce qui positionne la France au 40e rang mondial, juste entre le Libéria et la Biélorussie. Deuxième question, quel est l'écart de salaire entre les femmes et les hommes pour le même temps de travail? 14,9%, 18,9% ou 25,9%? La bonne réponse est 14,9%. Alors ce chiffre ne cesse de diminuer depuis 1995. En revanche, il reste encore d'autres inégalités. Par exemple, à poste comparable et pour le même temps de travail, les femmes sont payées 4% de moins. Et ça, aucune statistique ou aucun chiffre ne peut l'expliquer. Troisième question. Sur 10 emplois à temps partiel, combien sont occupés par des femmes? 3 sur 10, 7 sur 10 ou 8 sur 10? La bonne réponse, c'est 8 emplois sur 10. Et le temps partiel, c'est principalement des emplois peu qualifiés et moins bien rémunérés. Et pour mieux comprendre cette stat, il faut savoir que les femmes représentent 50,4% du salariat, donc moitié-moitié avec les hommes. Mais elles sont surreprésentées sur le temps partiel, 80% versus 20%. C'est le moment de mettre en commentaire votre score, et ça sert à rien de tricher, de toute façon, il n'y a rien à gagner.
Happy Boulot, le lab.
Et on retrouve Camille Bourg en 4 minutes avec notre invitée Camille, qui emmène les patrons se ressourcer dans la nature pour retrouver de la hauteur de vue.
Ça s'appelle Hors des Sentiers Battus et ça a été fondé par vous, Christophe Rieu. Vous êtes coach. En quelques mots, qu'est-ce que c'est?
Comme son nom l'indique, c'est sortir du cadre, emmener les dirigeants, les chefs d'entreprise à sortir de leur zone de confort pour aborder les problèmes sous un autre angle.
Mais vous allez où là, dans les forêts, à la campagne?
Les forêts, le GR préféré des Français, la baie du Mont-Saint-Michel, tous les sites naturels qui peuvent se prêter à cette prise de recul.
Et c'est le patron qui choisit ou c'est vous qui leur proposez?
C'est le patron qui, c'est en collaboration, mais on essaye de servir son cœur.
Et ensuite, vous faites quoi? Vous lui créez un petit programme sur plusieurs jours, c'est ça, pour vraiment le couper? J'imagine que le téléphone est interdit, Internet.
Alors, interdit,
il y a du Wi-Fi.
Ce serait bien, il n'y a pas de Wi-Fi. Ouais. Interdit, c'est un bien grand mot, mais enfin, c'est vivement recommandé, effectivement, de la déconnexion numérique. Et puis, pour se reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire à soi d'abord et à l'environnement ensuite. Vous parliez de la forêt, de la nature, de la mer, si on est en bord de mer.
Mais on fait quoi alors, typiquement, pendant ces petits séjours?
Alors, les dirigeants viennent systématiquement avec une problématique. C'est pas simplement du ressourcement. Le ressourcement, c'est le bénéfice induit. Mais on va travailler sur une problématique stratégique, organisationnelle, managériale, à laquelle fait face le dirigeant à l'instant où il
c'est
me...
C'est pas juste on est à la campagne, on est aussi avec vous, c'est ça, vous les accompagnez?
On travaille, on chemine côte à côte, au propre comme au figuré. Ouais. C'est-à-dire, je l'accompagne, mais je le questionne pour le faire avancer dans sa problématique.
Quels sont les bienfaits concrètement que vous avez pu observer auprès des dirigeants et dirigeantes?
Alors, les bienfaits, je dirais que c'est créativité et ressourcement. Donc, c'est-à-dire, je reprends une bouffée d'oxygène et je suis en condition, je parle au nom du dirigeant, d'imaginer d'autres possibles. Sortir du cadre, sortir de son bureau, sortir de
des murs. Ce qu'on peut pas faire quand on a le nez dans le guidon.
Exactement. C'est par définition, on sort la tête du guidon. On s'ouvre à tout ce qui nous entoure et c'est une source de créativité indéniable.
Combien de temps ça dure ?
48 heures.
Ah oui, c'est rapide.
48 heures, 2 à 3 jours.
Mais ça suffit ça ?
Les résultats, parce que ça fait 2 ans désormais que des sentiers battus existent, les résultats sont en atteste. En 48 heures, on fait le travail globalement de 6 mois d'accompagnement traditionnel en cabinet.
Et qui sont vos clients, par exemple ? Est-ce qu'il y a des secteurs plus représentés que d'autres ?
Tous les secteurs d'activité, du monde de l'industrie, du monde du service, du monde de la grande distribution, du retail. Il n'y a pas de...
Mais c'est quoi ? C'est le CAC 40 ou c'est des PME ?
PME comme grand groupe, de tout, effectivement. Pas de CAC 40 encore en ce qui me concerne,
Pas encore. Mais attendez, une fois que vous êtes passé sur BFM Business, ils vont vous appeler.
Mais est-ce qu'il faut forcément être à la tête d'une entreprise ? Est-ce qu'on peut être un salarié et venir faire un petit périple avec vous ?
Alors, les bénéfices, on se rend tout autant, au rendez-vous. À cette heure, ce sont plutôt les dirigeants qui viennent vers moi. J'ai bon espoir qu'une fois qu'ils ont perçu eux-mêmes les bénéfices, ils en fassent profiter l'ensemble de leurs collaborateurs.
Vous avez des indépendants peut-être ?
Des indépendants, bien sûr, ouais, également.
Les auto-entrepreneurs, souvent, ont du mal à...
Entre-entrepreneurs, peut-être pas, mais commerçants, ouais.
Ceux qui, pareil, ne sont pas aux 35 heures, et donc travaillent du lundi, parfois au dimanche, et n'ont pas le temps pour eux.
Ne prennent pas le temps pour eux, ni pour leur entreprise, effectivement.
Par curiosité, mais comment vous, Christophe Rio, vous en êtes venu à ça ?
Alors, c'est 20 ans de parcours dans la direction de PME. Puis du coaching, on va dire traditionnel, de dirigeant, de manager, puisque ça a été mon lot quotidien pendant 20 ans. Et puis la volonté finalement de faire recroiser mes premiers amours, je suis forestier à l'origine, avec ma passion de l'accompagnement de l'humain, du monde de l'entreprise.
Combien ça coûte ?
Quelques milliers d'euros.
Ouais, d'accord. Voilà. Par jour. C'est en fonction du séjour.
C'est en fonction de la durée du séjour. C'est en fonction du lieu. C'est en fonction de la complexité de la problématique qu'on va traiter avec le dirigeant, bien entendu.
Et c'est finançable. Ouais.
Ah oui, finançable par l'entreprise.
Par l'entreprise, oui, c'est ça que je voulais vous demander.
Non, c'est pas finançable dans le sens. C'est pas une formation.
C'est pas une formation. Ouais.
Donc c'est pas éligible par les OPCO comme classique.
On retrouve tous les détails sur votre site. C'est quoi ? C'est hors-des-sentiers-battus.eu. Merci beaucoup, Christophe Rioux.
Merci à vous
de nous présenter ça dans Happy Boulot.
Merci
d'avoir été notre invité dans le labo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Camille.
Merci à tous.
Vous retrouvez cette émission en replay et en podcast, bien sûr. Abonnez-vous pour être les premiers à recevoir les tout nouveaux épisodes. Merci à Flo et Alban qui étaient en régie aux manettes. On se retrouve le week-end prochain pour un prochain numéro. D'ici là, on vous souhaite bien sûr d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.